VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 22 octobre 2015. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. À la une ce soir.
Calme précaire à Brazzaville au lendemain d'une nouvelle journée de violence.
Présidentielle en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se mobiliseront-ils ?
Dans l'idée de convaincre les derniers citoyens indécis de se rendre aux urnes, la CEI, la Commission électorale indépendante, continue à travers les médias nationaux de sensibiliser la population ivoirienne pour qu'elle se déplace massivement le jour du scrutin, dimanche 25 octobre.
Nous entendrons notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso.
Lutte contre Boko Haram au Tchad, les véhicules à vitres teintées sont désormais interdits.
Je viens de payer les 100 000 francs CFA. Je ne sais pas pourquoi on nous taxe de Boko Haram, on nous traite de voyous. C'est vraiment du zèle. On prend nos véhicules, maintenant on nous demande de payer 100 000.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, très pessimiste quant à la crise israélo-palestinienne.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine, la situation à Brazzaville est revenue à un calme précaire hier soir après une interpellation de dirigeants d'opposition et de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au référendum de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, Parfait Kolelas, leader du MCDDI, affirme que les représentants de l'opposition sont ouverts au dialogue avec le gouvernement. Les différents partis de l'opposition et des membres de la société civile vont rencontrer aujourd'hui des émissaires des États-Unis et de l'Union européenne au sujet de la crise dans le pays.
Les Ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre prochain pour élire leur chef d'État. 7 candidats affrontent le président sortant et grand favori Alassane Ouattara. Mais l'opposition est divisée. Un scrutin joué d'avance, selon une partie de la population. J3 avant le vote, les Ivoiriens seront-ils massivement au rendez-vous des urnes ? Sur place, le regard de notre envoyée spéciale à Abidjan, Tatiana Mosso.
La campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi soir, les grands candidats organiseront leur dernier meeting. En attendant, la capitale ivoirienne et certaines villes de province sont le théâtre de meetings politiques, mais sans égal à la frénésie de la campagne présidentielle de 2010. Aucun incident majeur n'a été noté. Cependant, le faible engouement des électeurs pour retirer leur carte continue d'alimenter les pronostics sur le taux de participation au scrutin. Une participation qui s'annonce plutôt faible. Il y a 5 ans, lors du premier tour de l'élection, le taux de participation s'élevait à plus de 80%. Dans l'idée de convaincre les derniers citoyens indécis de se rendre aux urnes, la CEI, la Commission électorale indépendante, continue à travers les médias nationaux de sensibiliser la population ivoirienne pour qu'elle se déplace massivement le jour du scrutin, dimanche 25 octobre. Selon des chiffres de la Commission, 6 300 142 électeurs sont inscrits pour 19 838 bureaux à travers le pays. Reste à savoir combien d'électeurs ont réellement retiré leur carte et rapidement les urnes devraient dire s'ils s'en sont tous servis. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 20 personnes ont été tuées hier par des membres du groupe islamiste Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont déclaré des sources locales à l'AFP. Un groupe important de membres de Boko Haram qui fuyaient une offensive de l'armée nigériane contre leur camp dans la brousse ont ouvert le feu sur 4 véhicules circulant sur une route proche du village de Jingalta et ont tué les 20 occupants de ces véhicules.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé hier n'avoir jamais eu de relation d'affaires avec l'homme d'affaires français Michel Tomy. En marge de sa visite officielle de 2 jours à Paris, où il a été reçu en grande pompe par François Hollande, son homologue français, M. Keïta a tenu à clarifier la situation. Le point avec Lucie Lamont.
Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré lors d'une conférence de presse « Je reste droit dans mes bottes. Au-delà de la relation d'amitié, il n'y a jamais eu de relation d'affaires. » Il a ajouté « Je suis à l'aise et je ne courbe pas l'échine », se comparant à la blanche colombe. Ibeka a poursuivi. Je continue mon vol, on a même essayé de saboter cette visite à Paris, peine perdue. Avant de conclure en disant que certaines choses doivent mourir de leur propre venin. Michel Thomy avait été mis en examen en juin 2014 dans un dossier de fraude fiscale présumée concernant notamment l'achat de l'avion du président malien. La mise en examen de cette figure corse du jeu en Afrique se fonde sur des allégations de corruption d'agents publics étrangers, de faux et d'usage de faux, d'abus de confiance, de recel d'abus de biens sociaux, de complicité d'obtention indue d'un document administratif et de travail dissimulé. Les forces de l'ordre enquêtent pour savoir dans quelle mesure Michel Thomy a participé à l'achat du Boeing présidentiel malien. C'est le vérificateur général malien qui a épinglé cette acquisition. Quant à l'enquête, elle a débuté suite à un signalement de la cellule française de renseignement financier en 2012.
La seconde actualité concernant le Mali est ce nouveau bilan de la bousculade du 24 septembre à Mina, près de la Mecque, lors du grand pèlerinage musulman. Bousculade qui a causé la mort de 282 Maliens, faisant du Mali le pays africain le plus touché. D'après ces données, 2100 personnes ont perdu la vie dans cette bousculade, ce qui en fait la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne du Hajj, le grand pèlerinage musulman annuel.
Le gouvernement soudanais a annoncé hier mercredi avoir accepté une invitation de l'Union africaine à participer à des négociations de paix avec les rebelles du mouvement de libération du Soudan, le SPLMN, à Addis Abeba le mois prochain. Khartoum se dit prêt à y participer. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Cette invitation intervient au moment où le Soudan redouble d'efforts pour convaincre le SPLMN et les rebelles dans la région du Darfour de participer à un dialogue national destiné à résoudre les problèmes économiques et insurrectionnels qui minent le pays. De précédentes négociations organisées l'année dernière n'avaient pas donné de résultats. Le SPLMN combat depuis 2011 les forces de Khartoum dans les états du Kordofan Sud et du Nil Bleu, frontalier du Soudan du Sud. Le mouvement n'a pas indiqué s'il comptait participer aux discussions. Au pouvoir depuis un coup d'État en 1989 et recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et génocide au Darfour, dans l'ouest du pays, le président soudanais Omar El-Béchir a lancé le 10 octobre un processus de dialogue national. Le Darfour est miné depuis 2003 par des violences entre le gouvernement et des insurgés qui se sentent ethniquement marginalisés par le régime de Khartoum. Le conflit a fait plus de 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes selon l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, Michel, conflit israélo-palestinien, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à agir d'urgence contre l'escalade de violences qui font craindre une nouvelle intifada. Mais il s'est montré très pessimiste, étant particulièrement inquiet des incitations à la violence des deux côtés et du désespoir de la jeunesse palestinienne. Il a également réitéré ses critiques sur un usage disproportionné de la force par les autorités israéliennes.
La principale candidate à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, est attendue aujourd'hui devant une commission spéciale de la Chambre des représentants. Elle doit répondre aux questions des députés sur l'attaque terroriste de 2012 à Benghazi, en Libye, où 4 Américains ont trouvé la mort. Chérubin Dorsil.
Ce rendez-vous pourrait avoir un impact considérable sur la campagne de l'ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame des États-Unis. Les républicains ne lui feront pas de cadeau, mais elle peut compter sur l'appui des démocrates membres de la commission. L'un de leurs arguments, soulevé maintes fois d'ailleurs cette semaine à la presse, la politisation de l'enquête et la partialité de la majorité. Le leader de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy, déclare dans cette pub « Tout le monde croyait Hillary Clinton imbattable. Pourtant, nous avons formé une commission spéciale sur Benghazi. Et quelle est sa position actuelle dans les sondages ?» Pareille affirmation renforce l'argument de Mme Clinton et des démocrates accusant la commission de partialité. Lors du récent débat des candidats démocrates, Mme Clinton a martelé « Cette commission n'est pratiquement qu'une extension du Comité national républicain. C'est un outil de partisanerie, comme l'a admis le leader de la majorité, ayant pour but de faire baisser ma cote de popularité. Ainsi, si les projecteurs vont être braqués ce jeudi sur Hillary Clinton, patronne du département d'État lors de l'attaque de Benghazi, ses détracteurs seront aussi, dans une certaine mesure, en examen devant l'opinion publique. Une affaire à suivre. »
Et puis le commissaire européen aux migrations est attendu aujourd'hui en Slovénie pour évaluer les besoins de ce petit pays des Balkans qui se trouve en première ligne et dépassé par l'arrivée de milliers de migrants.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Eric Manirakiza.
La compagnie aérienne Ethiopian Airlines se tourne résolument vers l'Asie et la Chine en particulier, un marché plus porteur selon son PDG. Des membres d'équipage chinois seront déployés sur ces vols à destination de la Chine. D'ici là, Ethiopian Airlines ambitionne également de devenir le premier transporteur aérien africain. En plein essor, la compagnie éthiopienne a doublé de taille depuis le début de la décennie et affiche déjà la flotte la plus importante du continent avec 77 appareils contre 45 en 2010 et en comptera bientôt 120, dont 14 Airbus A350 en attente de livraison. Airtel Rwanda et Facebook offrent aux Rwandais utilisant le réseau Airtel l'accès à Internet gratuit. Les Rwandais pourront donc accéder à divers sites web à travers le réseau Airtel sans frais. L'ensemble de services gratuits couvre notamment les rubriques de la santé, l'éducation, la communication, le sport, l'emploi et l'information. Selon Facebook, ce partenariat permettra aux collectivités et aux entrepreneurs de se développer. L'Agence internationale de l'énergie prévoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur de l'énergie. Cependant, les pays participant à la conférence de Paris 21 doivent impérativement respecter leurs engagements dévoilés dans l'optique de la conférence. Le secteur de l'énergie nécessite aussi un investissement de 13 500 milliards de dollars d'ici 2030, soit 840 milliards par an en moyenne, prévient l'agence.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric. Et maintenant, notre page sport, aujourd'hui avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
On commence par la Ligue des Champions, troisième journée en Europe.
Oui, dans le groupe A, victoire 1-0 de Malmö face au Shakhtar Donetsk au Parc des Princes. Match nul 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Dans le groupe B, 2-0 pour le VfL Wolfsburg face au PSV Eindhoven. Tandis que le CSKA Moscou et les Anglais de Manchester United se sont départagés par la parité d'un but partout. Dans le groupe C, victoire des Turcs de Galatasaray, 2-1 sur les Portugais du Benfica. Large victoire 4-0 de l'Atlético de Madrid contre le FC Astana. Dans le groupe D, défaite 2-1 de Séville FC en déplacement chez Manchester United. Et puis enfin, match nul 0-0 entre la Juventus Turin et le Borussia Mönchengladbach.
Le scandale de la FIFA touche de nouvelles personnalités.
Oui, chaque jour apporte son lot de secousses à la FIFA. La commission d'éthique a révélé que sa chambre de jugement allait se pencher sur l'icône du foot allemand Franz Beckenbauer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, et sur l'espagnol Angel Maria Villar-Liona, un des vice-présidents actuels de cette instance. L'allemand champion du monde avec la RFA comme capitaine en 1974, puis sélectionneur en 1990, était membre du comité exécutif de la FIFA au moment du vote de 2010. Qui a attribué le mondial 2018 à la Russie et celui de 2022 au Qatar. Il avait été suspendu pour 90 jours en juin 2014. La commission d'éthique de la FIFA promet par ailleurs un jugement rapide pour Michel Platini d'ici la fin de sa suspension à titre conservatoire.
Et puis l'ex-capitaine de la sélection nationale de Trinité-et-Tobago, candidat à la présidence de la FIFA.
Oui, David Nakid est désormais officiellement candidat à la présidence de la FIFA. Âgé de 51 ans, c'est le troisième candidat officiel à la succession de Joseph Blatter à la tête du football mondial après Michel Platini, actuellement suspendu pour 90 jours de toute activité liée au football, et le prince Ali de Jordanie. L'élection à la présidence de la FIFA est prévue le 26 février et la date limite pour les candidatures est fixée à ce lundi.
Merci Bagassi.
Ba 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 ba
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Alors qu'il ne reste plus que 2 jours de campagne aux différents candidats pour convaincre leurs électeurs, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore retiré leur fameux sésame, leur donnant accès aux urnes. Dans les rues de la capitale ivoirienne, Tatiana Mosso est allée prendre le pouls entre ceux qui hésitent encore à aller voter dimanche et ceux qui sont convaincus qu'il faut se servir de son droit de vote.
C'est un acte civique. Et ça contribue d'ailleurs à l'épanouissement de mon pays.
Il y a 5 ans, vous aviez 20 ans. Est-ce que vous avez voté?
Non, j'ai pas voté.
Pourquoi?
Bon, parce qu'en 2010, vous savez, la Côte d'Ivoire n'était pas celle qu'elle est présentement. Donc je ne vais pas entrer dans cet état-là, mais vous pourrez savoir quand même.
Mais pourquoi vous n'avez pas voté? La crise s'est arrivée après?
La crise s'est arrivée après, mais il y avait quand même des méfiances. Il y avait quand même des méfiances. C'était mieux de rester chez soi, franchement.
Plutôt que d'aller voter ?
Plutôt que d'aller voter.
Mais pourtant, ça s'est empiré après le vote, pas avant.
Parce que ça a engendré surtout des représailles à certains qui sont allés voter, qui ont été empêchés, qui ont été menacés. Bon, ce sont des choses qu'on a laissées derrière soi, donc je ne voudrais pas en parler encore.
Et aujourd'hui, vous êtes prêt à aller voter sereinement ?
Bien sûr que oui, j'irai voter dimanche tout simplement et puis venir à la maison.
Le vote, c'est dimanche. Est-ce que vous allez aller voter ?
Non, moi, je ne vais pas voter. J'ai décidé de ne pas aller voter parce que pour moi, toutes les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections justes et transparentes.
Qu'est-ce qui n'est pas réuni selon vous? C'est quoi les conditions?
Les conditions, pour moi, c'est d'abord liste électorale qui ne sont pas consensuelles. Il y a aussi la confection des cartes d'électeurs qui ne sont pas consensuelles. Il y a aussi l'environnement sécuritaire qui n'est pas favorable.
Vous ne pensez pas que le vote, justement, c'est important pour pouvoir faire changer les choses?
Ben oui, mais si on doit faire changer les choses, parce qu'une chose est d'y aller et une chose est aussi de gagner. Il ne faut pas aller pour aller légitimer à la réélection de quelqu'un ou bien l'élection de quelqu'un en pensant que bon, le fait d'aller satisfaire un droit de vote ou bien droit civique, bon ben voilà, on pense qu'on peut changer les choses. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on aille en rang serré, il faut qu'on aille de façon consensuelle pour que tout le monde ait sa chance de personnel. C'est un sentiment personnel. Moi, je me dis, quand on arrive au pouvoir et on fait des promesses faramineuses, on dit bon voilà, pour des jeunes diplômés que vous êtes, voilà ce qu'on propose pour vous. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que 4 ans, 5 ans après, rien n'est fait. Donc, on se dit que tout est du bluff et que rien n'essaie encore de faire plaisir à certaines personnes en allant prendre les cartes d'électeurs pour aller voter. C'est une manière pour moi de leur dire que j'en ai marre. Voilà.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la présidentielle de ce dimanche en Côte d'Ivoire. Un scrutin jugé crucial dans un pays marqué par la guerre civile de 2010-2011. 7 candidats tenteront de déloger le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat. Ouattara est déclaré favori, mais les jeux sont-ils faits? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Lutte contre Boko Haram, les autorités tchadiennes passent à une vitesse supérieure dans l'application de certaines mesures. Après les rafles des femmes voilées, ce sont des propriétaires de véhicules à vitres teintées ou fumées qui sont visés par la police nationale. La correspondance d'André Komadjingar.
Interdiction formelle de circulation des véhicules à vitres teintées ou fumées sur l'ensemble du territoire national. C'est une ancienne mesure réactualisée dans le cadre de la lutte contre l'infiltration des éléments du groupe d'État islamique de l'Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram sur le territoire tchadien. Une commission est mise en place et présidée par le directeur général de la police nationale chargée de l'exécution immédiate de cette décision. Ahmad Mohamed Bachir, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, est dur.
Il y a des petits voyous qui narguent l'État, mais on va les narguer et on va les trouver sur notre chemin. On appliquera toute la loi sur eux. Je ne veux pas entendre parler de vitres originales. On va casser.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Environ 300 véhicules à vitres teintées ou fumées sont arrêtés dans la ville de N'Djamena en moins d'une semaine par la dite commission. Tout propriétaire doit payer une amende de 5 000 francs CFA avant de retirer son véhicule avec un engagement ferme de remplacer les vitres dans un meilleur délai. Quelques victimes expriment leur mécontentement.
C'était une surprise pour moi parce qu'il y a un arrêté. Rien n'est mentionné comme quoi le propriétaire doit payer un franc pour pouvoir récupérer son véhicule. C'est pas normal que le peuple soit vraiment soumis à une amende qui n'est même pas légale.
Je viens de payer les 100 000 francs CFA. Je ne sais pas pourquoi on nous taxe de Boko Haram. On nous traite de voyous.
C'est vraiment du zèle. On prend nos véhicules, maintenant on demande de payer 100 000. Et qu'est-ce qu'on nous donne en contrepartie? Des amendes forfaitaires de 2 000 francs. 2 000 francs, ça fait 50. Pour faire l'équivalent de 100 000 francs CFA.
Les propos du ministre sont d'autant plus choquants parce qu'il est en train de créer de cette manière une certaine stigmatisation. C'est pas de cette manière qu'on peut créer une adhésion de la population aux mesures qui sont prises.
Dans un arrêté publié ce mercredi par le ministre de la Sécurité publique, un délai de 2 mois est accordé aux usagers de se conformer à cet acte administratif. Pour le constitutionnaliste Dr. Ahmad Mahamat Hassan, cet acte est sans fondement juridique.
L'article 2 de l'arrêté dit que les propriétaires de ces véhicules disposent d'un délai de 2 mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Ça veut dire que c'est un délai moratoire. Et ce délai moratoire veut dire que c'est après ce délai de 2 mois que la police pourrait sortir dans les rues et commencer à appréhender les éventuels contrevenants. L'arrêté est en contradiction totale avec les principes de la République et de l'égalité du droit. Une amende de 100 000 francs, ça sort de l'ordre d'une amende forfaitaire. Et là, ça entre dans le domaine de la loi. Et moi, je n'ai pas vu un texte qui prévoit cette amende forfaitaire de 100 000 francs pour les contrevenants. D'ailleurs, je suis désolé que les contrevenants soient soumis à cela avant l'expiration du délai de 2 mois. Les 100 000 francs sont basés sur quelle base? Ça, c'est une irrégularité grave et que les autorités doivent rappeler cela à l'ordre.
André Kodoma Djingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena. Au Cameroun, les habitants des zones inondables de Douala, dont les maisons ont été détruites en juillet dernier dans des opérations de drainage, ces habitants se débrouillent aujourd'hui comme ils peuvent en attendant l'assistance des autorités. De Douala, une correspondance d'Idée Sandrine Nyanga.
Assise sur un tabouret dans ce qui tient lieu de salon, Maman Marie s'affaire à décortiquer des graines de courge. Juste à côté, sa fille d'une quarantaine d'années se souvient de ce qui peut être considéré comme les belles années, celles durant lesquelles son domicile était un lieu tranquille.
Sans les inondations, tu entrais dans ma maison, tu disais que voilà une femme. Mais je n'ai plus rien. Tout est parti avec l'eau. L'eau a amené tout.
Leur bâtisse, construite sur un drain, a été comme des dizaines d'autres maisons détruites par les engins de la communauté urbaine de Douala au quartier Makepe-Misoke, dans le 5e arrondissement de Douala, à la suite des graves inondations qui avaient été enregistrées en juin dernier. C'est dans un pan du domicile qui n'a pas été touché par l'engin dévastateur que la petite famille vit au quotidien avec les intempéries que cela comporte.
Tous les jours, elle entre. Il n'y a pas un jour que ça n'entre pas. Dès qu'il pleut, l'eau commence là-bas, ça vient, on dirait qu'on poussait. Ça vient, ça monte ici, ça inonde ici. Si on te dit qu'il y a des fois où l'eau traverse ici, nous restons parce qu'on n'y peut rien. Nous n'avons pas où aller. On supporte enlever l'eau et on attend.
Non loin de là, Régine, commerçante, est aussi une victime des casses. Depuis lors, sa vie n'a plus le même sens.
Ils ont cassé pour nous, sans même laisser une chambre. Moi, je suis une Nangaboko. Je suis devenue une Nangaboko parce qu'on a cassé la maison. En attendant qu'on fasse ce qu'on a demandé, qu'on fasse ce qu'on a dit. Bon, actuellement, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans ma famille comme je restais avant. Je suis dehors comme ça, là.
Obligés de se débrouiller comme ils peuvent pour faire la cuisine, la lessive, la vaisselle, les habitants du lieu d'Imakepe-Misoke à Douala s'indignent surtout de ce que les travaux de drainage et de curage annoncés par les autorités après l'étape des casses n'ont toujours pas démarré.
Pour résoudre le problème, ils ont dit qu'ils vont drainer les cours d'eau et rien. Pour le moment, nous sommes encore curieux, on attend voir si réellement ça sera vraiment effectif.
4 mois après les casses qui ont suivi les inondations, la vie a repris son cours normal pour ceux qui ont choisi de rester sur les sites. Les autorités administratives avaient évoqué un plan d'assainissement des zones à risque dans la capitale économique du Cameroun, chiffré à hauteur de 100 millions de francs CFA. Depuis lors, rien de concret. Entre-temps, les populations ont envahi à nouveau les zones déguerpillières en priant d'être épargnées par des inondations qui pourraient être plus voraces dans les prochains jours. Ide Sandrine Yamga, Douala, Voix de l'Amérique, Afrique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En Afrique du Sud, deuxième semaine de manifestation d'étudiants contre un projet d'augmentation des frais universitaires de 10%. Au Cap, la police a eu recours à des grenades assourdissantes mercredi pour disperser des étudiants devant le Parlement national. Au moins 14 universités sud-africaines ont temporairement fermé leurs portes en rapport avec cette situation. En concertation avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Blad Nzimande, les dirigeants universitaires ont proposé une hausse de 6%, offre rejetée par les étudiants. Pour un éclairage, Timothée Donangmai, adjoint à Johannesburg, Madame Bénite Gbafou, professeure d'architecture et d'urbanisme à l'université de Witwatersrand.
La lutte est partie depuis bien plus longtemps de l'université du Cap. À propos de la transformation des universités. Et le mouvement portait plus sur les symboles, les noms, les programmes, la transformation raciale du personnel et des étudiants et du corps étudiant. Mais là, il y a eu une recrudescence et en fait une cristallisation de la lutte à partir de la décision des autorités universitaires d'augmenter les frais d'inscription pour l'année prochaine. Et ça, ça a mis le feu aux poudres, parce que les frais d'inscription sont déjà extrêmement élevés. Nous, en tant qu'enseignants, on voit nos étudiants devoir travailler en même temps qu'ils étudient ou ne pas arriver sans avoir mangé en cours. On les voit vraiment, vraiment avoir du mal à poursuivre leurs études. Et là, cette augmentation a vraiment mis le feu aux poudres.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût des études en Afrique du Sud?
Jusqu'aux 3-4 premières années, à Wits, dans la matière que j'enseigne, c'est-à-dire en urbanisme et architecture, on paye environ 30 000 rand, 2 500 euros par an. À un niveau postgraduate, c'est-à-dire licence maîtrise, ça monte à 40 000 rand. Donc environ 4 500 euros.
Qu'en est-il des étudiants étrangers?
Pour eux, c'est encore plus cher. Puisqu'il y a une politique de l'université de Witwatersrand, de toutes les universités sud-africaines, en fait, de demander aux étudiants étrangers des frais supplémentaires pour les étudiants internationaux.
Alors, on a ces manifestations d'étudiants. Que disent les autorités?
Au départ, la manifestation s'est centrée sur Wits et s'est beaucoup cristallisée sur la personne du président de l'université, Adam Abib, qui est un homme qui vient de milieu de gauche, qui a beaucoup milité dans sa jeunesse, donc qui a une réputation d'être un homme de gauche et qui, une fois au poste de commande, a augmenté énormément les frais d'inscription, ce qui apparaît, le met un peu en porte-à-faux avec sa réputation. Donc les étudiants, ça les a vraiment beaucoup mis en colère. Et au départ, la pression s'est beaucoup portée sur lui, avec 0% d'augmentation pour l'année prochaine, où il a finalement accepté de suspendre cette augmentation. Mais le problème est en vérité au niveau du budget national et qui est consacré aux dépenses d'éducation. Et cette part du budget est extrêmement faible par rapport à des pays comme l'Inde ou le Brésil, qui ont vraiment investi dans leurs universités. Donc maintenant, les revendications, et aujourd'hui c'était le cas au Cap, les étudiants sont sortis des campus et commencent à se mobiliser à l'échelle nationale et à attaquer le ministre, Bled Zimande, en lui disant « mais investissez dans l'éducation, c'est vraiment une priorité de ce pays ». Et pour l'instant, au niveau national, on fait la sourde oreille.
C'était Madame Bénite Gbafou, professeure d'architecture et d'urbanisme à l'université de Witwatersrand à Johannesburg.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin. fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. Monsieur Chang était à la console. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.